RRB Rétro 2024.
Cela fait 10 jours que nous sommes entrés dans 2025 et l'actualité de ce début d'année a été accaparée par la chute du gouvernement et la mise en place du suivant. Mais nous allons revenir quand même sur cette année 2024 avec une rétrospective et une première partie préparée par Elisabeth Noir sur l'actualité politique qui a été particulièrement chargée l'an dernier. Le Parlement a adopté une loi constitutionnelle et 2 lois organiques relatives à la Nouvelle-Calédonie. Les élections provinciales ont été reportées à 2 reprises et le territoire a reçu de nombreuses visites, notamment celles du président de la République, du ministre de l'Intérieur et des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Retour donc sur ces temps forts de l'année écoulée avec Elisabeth Noir.
Contrairement au ressenti, l'année 2024 en Nouvelle-Calédonie n'a pas débuté le 13 mai. L'actualité politique des premiers mois de l'année a même été extrêmement dense avant les violences insurrectionnelles. Dès le début de l'année, dans son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal avait fixé la feuille de route pour la Nouvelle-Calédonie.
Je veux ici avoir un mot particulier pour la Nouvelle-Calédonie. Je souhaite que le processus politique en cours aboutisse. J'y veillerai et vous examinerez dans quelques semaines un projet de loi constitutionnelle sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Comme il s'y était engagé, faute d'accord au 31 décembre 2023, l'État lance donc la révision constitutionnelle pour la modification du corps électoral, une réforme qui va entraîner un report des élections provinciales de mai à décembre 2024. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, confirme ce calendrier.
Comme le président s'y est engagé dans son discours de Nouméa, nous avons choisi de modifier le corps électoral pour les élections provinciales et seulement pour les élections provinciales, mais également nous avons besoin de reporter la date des élections provinciales qui se déroulera sans doute à la fin de l'année, autour du mois de décembre.
Une révision constitutionnelle qui doit entrer en vigueur au 1er juillet 2024, sauf si un accord politique et institutionnel a été conclu entre les partenaires avant cette date. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer effectue en février son 6e déplacement en Nouvelle-Calédonie, en compagnie cette fois-ci du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Une visite marquée par les premières violences de la CCAT, avec une manifestation à Nouméa à laquelle participe le président de l'UC, Daniel Goa.
Chose qui est importante aujourd'hui, qu'il faut dire à Darmanin, c'est qu'il ne peut pas bouger la loi constitutionnelle.
Gérald Darmanin qui condamne les violences contre les gendarmes et le refus de l'UC de le rencontrer.
Et je regrette que l'Union calédonienne n'ait pas venu discuter. Voilà. Donc je pense que ce n'est pas en étant sourd au dialogue qu'on y arrive.
Le processus législatif démarre quelques jours plus tard. Dès le 28 février, le Sénat approuve le report des élections provinciales au plus tard au 15 décembre 2024. Un report pour laisser une chance aux discussions politiques d'aboutir, mais déjà le sénateur indépendantiste Robert Rowy reproche à l'État de chercher à légitimer une nouvelle forme de colonisation.
Le gouvernement, en facilitant l'intégration des nouveaux arrivants avec une durée de résidence de 10 ans, cherche à légitimer une nouvelle forme de colonisation de peuplement en organisant une noyade démographique du peuple originel.
Le projet de loi organique est adopté le 18 mars par l'Assemblée nationale. Mais parallèlement, un autre combat se joue, celui du pacte nickel. Lors de son déplacement de novembre 2023, Bruno Le Maire voulait que le pacte nickel aboutisse courant janvier. Il incite désormais les élus calédoniens à le voter avant la fin du mois de mars et sans le modifier.
Ce pacte est solide, ce pacte est crédible, ce pacte est la seule voie pour redresser la filière nickel en Nouvelle-Calédonie, la seule.
Et le 27 mars, il reçoit le renfort d'Agnès Pannier-Runacher qui répond à l'Assemblée nationale à une question du député Metzdorf.
Pour vous répondre très clairement, pas de pacte, pas de repreneur.
Mais malgré ses appels et ses incitations, une majorité d'élus du Congrès, entraînée par Philippe Gomès, refuse d'adopter le pacte nickel défendu pourtant par le président du gouvernement Louis Mapou. Ce refus est le premier acte d'un divorce entre le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, tandis que la crise du nickel s'accroît, avec notamment le retrait de Glencore du capital de KNS, l'usine du Nord qui cessera son activité en août. Une crise que constate l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il est en visite en Nouvelle-Calédonie fin mars.
Cette inquiétude, cette angoisse, ce ralentissement économique, avec ce qu'il peut emporter de conséquences sociales, je crois que c'est l'aspect le plus notable, et peut-être aussi d'ailleurs le plus inquiétant, que spontanément il m'a été permis de découvrir.
Une situation économique tendue avec des conséquences politiques et sociales et la constitution d'un collectif Agissons Solidaires qui s'oppose à la politique fiscale du gouvernement. Les membres loyalistes et rassemblements du gouvernement quittent la séance pour protester contre l'absence de collégialité et s'opposer à la création de taxes. les élus loyalistes et rassemblement du Congrès décident également de ne plus siéger et Sonia Backès se justifie.
Vous n'êtes pas majoritaire, les Calédoniens en ont décidé autrement, trois fois. Et en plus, vous vous permettez de nous mépriser, au gouvernement, ici, de vous comporter comme si vous étiez à la tête d'une dictature.
Et le 28 mars, une grande manifestation se déroule sous les fenêtres du Congrès, alors que les élus indépendantistes Éveil Océanien et Calédonie Ensemble sont en séance publique. Entre-temps, le 42e congrès du FLNKS se réunit le 23 mars à Nabéa. Il exige le retrait définitif du projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral, comme le déclare Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UC qui assure l'animation du bureau politique.
On demande le retrait tout simplement pour créer les conditions pour favoriser la reprise du dialogue. C'est pour ça aussi que le Congrès a demandé une mission de dialogue conduite par des hauts responsables de l'État, mais qui ne seraient pas dans le gouvernement, justement pour amener un peu plus de neutralité.
Mais le 26 mars, l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie entre dans une nouvelle phase avec le début au Sénat de l'examen de la réforme constitutionnelle pour élargir le corps électoral. Le texte est adopté lors d'un vote solennel le 2 avril, avant d'être transmis à l'Assemblée nationale. Le député Nicolas Metzorf regrette à cette occasion la prudence des responsables politiques métropolitains sur le dossier calédonien.
On essaye de leur démontrer que les gens raisonnables, c'est nous. Que l'universalisme de la République française, c'est nous. Que l'humanisme chrétien, c'est nous. Mais ils ont du mal encore à l'entendre parce qu'ils sont sur les images d'Épinal et les caricatures des années 70-80. Il faut beaucoup d'énergie pour changer les choses.
Et pendant que le Sénat adopte le projet de loi constitutionnelle, la CCAT, la cellule de coordination d'action de terrain, organise une mobilisation contre le dégel du corps électoral. Une mobilisation émaillée de prises de parole souvent virulentes, voire menaçantes, comme les propos de Christian Théin.
La CCAT, on a dit qu'on était dans la phase 2. On va évoluer en fonction de la situation quand le temps sera venu. On lancera un grand rassemblement sur la place des accords le 13 avril pour rappeler encore à l'État qu'on sera là, pacifiquement, mais on les emmerdera jusqu'au bout.
Le 13 avril, ce sera finalement une journée de double mobilisation. La CCAT manifeste contre la loi constitutionnelle et dans le même temps, des milliers de personnes se mobilisent en faveur du dégel du corps électoral et du vivre ensemble. Un succès, souligne Sonia Backès.
On est ici chez nous et on veut tout simplement vivre ensemble ici chez nous et qu'on veut que la démocratie soit respectée. J'ai été très, très choquée d'entendre les indépendantistes dire qu'on n'était pas chez nous en fait. Nous, on n'exclut personne, on veut simplement vivre ensemble.
C'est dans ce contexte que le rassemblement porte Alcide Ponga à sa présidence. Il estime que malgré les crispations, les discussions sont possibles entre partenaires calédoniens.
Ouais, des slogans politiques, rien que l'indépendance, rien que l'indépendance. Mais là, il faut traiter la réalité de la chose. Voilà. Et une des réalités, c'est qu'il y a eu 3 référendums où les Calédoniens, ils ont voté. Et ça, il faut respecter, parce que ça fait partie de la démocratie.
On rentre alors dans le dur. Et la loi constitutionnelle doit être examinée par l'Assemblée nationale. Le 7 mai, elle est approuvée par la Commission des lois. Avant son examen, le 13 mai, en séance publique, la séance se déroule alors que la Nouvelle-Calédonie, et notamment l'agglomération de Nouméa, connaissent une nuit de violence. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, évoque ces événements à la tribune.
Au moment où nous discutons, j'ai une pensée pour les policiers, les gendarmes et singulièrement pour les gendarmes, dont on évacue en ce moment même les familles menacées de mort par des manifestants qui ne passent pas par la démocratie, mais par la violence, le tir à balles réelles, l'intimidation et les menaces de mort.
Le projet de loi constitutionnelle est adopté par les députés, mais la violence insurrectionnelle se déchaîne sur le territoire. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer annonce que dans le cadre de l'état d'urgence, il a procédé à plusieurs assignations des leaders de la CCAT, un mouvement qu'il qualifie d'organisation mafieuse.
Ce qui est certain, c'est que nous avons de nombreux éléments qui montrent que c'est une organisation mafieuse, violente, qui pille des magasins, tire à balles réelles sur des gendarmes, ce pauvre gendarme de 22 ans qui est mort, met le feu à des entreprises, ont attaqué un certain nombre d'institutions pourtant indépendantistes.
Et à partir de là, tout change. Les violences insurrectionnelles auront de fortes conséquences aussi sur la vie politique.
Il y a donc un avant et un après déclenchement des violences insurrectionnelles. En mai, c'est donc une nouvelle séquence politique qui s'ouvre pour la Nouvelle-Calédonie.
Nous ne revenons ici que sur les événements politiques et institutionnels. Et l'épisode suivant, c'est la venue le 23 mai du président de la République. Emmanuel Macron parle d'une violence insurrectionnelle inédite et il annonce d'abord qu'il a décidé de ne pas passer en force sur le projet de loi constitutionnelle.
Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global.
Et l'on reparle d'un accord global avec, pour aider à y parvenir, une mission de médiation et de travail installée par Emmanuel Macron avec trois hauts fonctionnaires, dont le préfet Bastille. Une mission qui fera long feu, même si le 30 mai, le Premier ministre Gabriel Attal affirme qu'un accord global est accessible.
J'ai la conviction que nous en sommes capables à nouveau, qu'un dialogue est possible, qu'un accord global est accessible. Sous l'autorité du président de la République, avec mon gouvernement, nous ferons tout notre possible pour y parvenir.
Mais malgré les affirmations de l'État, les indépendantistes doutent et réclament le retrait de la loi constitutionnelle. Lors d'une déclaration solennelle le 8 juin, le président du gouvernement, Louis Mapou, condamne les violences, mais il affirme que la loi constitutionnelle est à la source de ces événements et qu'elle ne peut perdurer.
Le calendrier prévu n'est plus d'actualité, car le président de la République a fixé un rendez-vous lors de sa visite pour faire le point sur l'évolution de la situation du pays à fin juin 2024. Pour sortir de la crise, ce qui rend improbable la tenue des élections provinciales de fin 2024 et le vote de cette loi par le Congrès de Versailles.
La politique nationale percute la Nouvelle-Calédonie. Malgré le climat de violence, les Calédoniens participent aux élections européennes, des élections perdues par le camp présidentiel. Et dans la foulée, Emmanuel Macron décide, à la surprise générale, de dissoudre l'Assemblée nationale. Et il s'exprime aussi sur la loi constitutionnelle qui modifie le corps électoral.
Le projet de loi constitutionnelle qui a été voté dans les mêmes termes par les deux chambres sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai décidé de le suspendre.
Suspension de la loi constitutionnelle et élections législatives. Il y a au total 19 candidats en Nouvelle-Calédonie, 12 dans la première circonscription, 7 dans la seconde. Au terme du second tour, Nicolas Metzdorf est réélu député au prix d'un changement de circonscription. Face à Omeyra Neslin, la candidate indépendantiste et nationaliste, il est élu député de la première circonscription lors d'un scrutin marqué par de nombreuses irrégularités. Dans la seconde circonscription, c'est Emmanuel Tchibaou qui est élu et il veut faire entendre la voix des indépendantistes à l'Assemblée nationale. Une assemblée sans majorité et pas encore de Premier ministre, mais en Calédonie, Sonia Baquet choisit le 14 juillet pour proposer une réforme institutionnelle visant à l'autonomisation des provinces. Puisque le vivre ensemble est un échec et que l'affrontement n'est plus tolérable, marchons côte à côte, propose la présidente de la province Sud dans une déclaration solennelle.
Dans ce contexte de tension et d'opposition irréconciliable, il faut dire les choses avec franchise. Aucun des deux camps n'a réussi à convaincre l'autre. Le projet d'une Nouvelle-Calédonie, institutionnellement unie et fondée sur un vivre ensemble les uns avec les autres, est révolu. Les indépendantistes radicaux l'ont tué.
L'idée sera approuvée par les loyalistes qui, en novembre, présenteront le projet commun d'une fédération territoriale à défendre dans les discussions pour l'avenir institutionnel. Auparavant, fin juillet, le président de la République reçoit à l'Élysée les quatre parlementaires calédoniens. Il leur annonce sa décision de reporter les élections provinciales et il propose une reprise des discussions sur l'avenir dès le mois de septembre à Paris. Ce calendrier ne sera pas respecté, mais ce sont les indépendantistes qui font l'actualité au mois d'août. Il faut dire que rien ne va plus au FLNKS, dont le congrès a été suspendu en juin. Il doit se tenir à la fin du mois à Koumac, mais l'UPM et le PALIKA annoncent qu'ils n'y participeront pas parce que les conditions ne sont pas réunies, explique Jean-Pierre Diaoué.
Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que l'on tienne un congrès du FLNKS. C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes toujours dans la démarche adoptée lors de nos derniers congrès? C'est-à-dire qu'il faut que l'on s'inscrive dans une démarche de discussion, des négociations avec les partenaires calédoniens et l'État.
Mais l'UCCCAT va jusqu'au bout de la provocation lors du 43e congrès réuni à la tribune Bagou, en actant la nomination de Christian Théin comme président du FLNKS, une désignation saluée dans son discours de clôture par Alosio Sacco, le président du RDO en charge de l'animation.
Cet élan que Bichou avait lancé, cette dynamique, il nous faut rester groupés, unis dans cette dynamique pour consolider cette trajectoire qui doit nous mener vers la souveraineté pleine et entière de Kanaky.
Le PALIKA et l'UPM ne reconnaissent pas les décisions du 43e congrès et ce pseudo-congrès du FLNKS a presque occulté le coup de théâtre vécu le 29 août au congrès de la Nouvelle-Calédonie avec l'élection à la présidence de Velma Falaeo, élue par une majorité éveil-océanien loyaliste Rassemblement et Calédonie Ensemble, une défaite cinglante pour Roch Ouamitan. La nouvelle présidente tient à se distinguer de son prédécesseur. Et le 14 octobre, elle dénonce le fameux mémorandum signé entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée nationale de l'Azerbaïdjan.
En tant que présidente
et au nom du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, je déclare et je confirme que ce mémorandum est nul, non avenu, de nul effet, puisqu'il est sans existence.
C'est en avril que ce mémorandum avait été signé par Omeyra Nesrin au nom du président du Congrès, à l'invitation du groupe d'initiative de Bakou, et Rokwawiton avait justifié cet accord.
Parce que l'Azerbaïdjan a monté sa capacité de nous aider. À partir du moment où nous devons trouver des appuis extérieurs du fait que le président Macron est sorti de son impartialité depuis les accords de Matignon, nous devons aller à l'extérieur pour pouvoir être entendus.
Une proximité qui avait été dénoncée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
L'utilisation de l'Azerbaïdjan de ce dossier calédonien au niveau international comme au niveau de la Nouvelle-Calédonie, nous choque profondément. Donc effectivement, nous y voyons une ingérence étrangère caractérisée.
Mais très vite, ce sont les dossiers économiques qui prennent le dessus. Il faut sensibiliser les principaux responsables politiques nationaux à la situation dramatique créée par les violences insurrectionnelles. Deux stratégies sont mises en œuvre. Celle du gouvernement qui propose son PS2R, un plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction, et un plan pluriannuel de reconstruction qui est porté par une délégation interinstitutionnelle et transpartisane, composée de plusieurs chefs de groupe du Congrès, à laquelle ne sont associés ni le Palika ni les loyalistes. Le fossé se creuse entre le gouvernement et le Congrès. L'avenir institutionnel qui reprend le dessus le 2 octobre, quand dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Michel Barnier fait plusieurs annonces concernant la Nouvelle-Calédonie.
Je suis en mesure d'annoncer, en accord avec le président de la République, la décision de reporter les élections provinciales jusqu'à fin 2025. Le projet de loi constitutionnel sur le dégel du corps électoral, adopté en mai dernier par les assemblées parlementaires, ne sera pas soumis au Congrès.
Deux priorités pour le Premier ministre dans cette nouvelle étape, la reconstruction économique et sociale et la recherche d'un consensus sur l'avenir institutionnel. Le nouveau ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, vient sur le territoire. Il affirme sa volonté de renouer le dialogue et il évoque le dégel du corps électoral.
La question, elle n'est pas sur le principe même, elle est sur les conditions et sur la manière dont on va pouvoir aborder cet ajustement électoral. Et donc, ça va faire partie des discussions. Et puis, on va essayer d'ajuster les choses pour qu'on soit, si je puis me permettre cette expression un peu directe, juridiquement dans les clous.
Le processus législatif reprend et le Congrès donne un avis favorable au report des élections provinciales à fin novembre 2025. Le 23 octobre, le Sénat adopte le projet de loi organique et l'Assemblée nationale le valide le 7 novembre. Ce report doit permettre un nouveau départ et la reprise du dialogue dans le territoire, toujours plongé dans une situation économique et sociale dramatique, des mois après le déferlement de violence de mai. De toute façon, il faut sortir de cette situation, déclare sur RRB le haut-commissaire Louis Lefranc, quand on lui demande si, selon lui, un accord global est possible.
C'est quoi l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Ben là, il est subordonné à un accord. Il n'y a pas le choix. Il va falloir signer un accord. Et cet accord, il va falloir le construire, et le construire intelligemment, et le faire de façon équilibrée.
Construire un avenir apaisé, c'est le sens de la mission de conciliation menée par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. Dans leur discours devant le Congrès, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale affirment que la solidarité nationale ne fera pas défaut aux Calédoniens. Gérard Larcher suscite l'émotion en parlant de « souveraineté partagée », mais il s'en explique.
La souveraineté partagée, je la vois, moi, totalement possible avec la République, dans la République. Et je l'ai dit hier devant le Congrès, c'est ce que je souhaite personnellement. N'ayons pas une approche idéologique. Essayons de conceptualiser comment deux rêves qui paraissent antagonistes peuvent être conjugués. Je pense que ce rêve, il a besoin quelque part des valeurs de la République.
Et pour sa part, Yael Braun-Pivet insiste sur l'intérêt porté à la Nouvelle-Calédonie.
C'est la première fois que des présidents d'assemblée font un déplacement commun. Dans cette visite exceptionnelle, nous avions le souhait aussi de dire cette considération à chacun et dire simplement que la Nouvelle-Calédonie compte. Elle compte pour le Parlement, elle compte pour la France. Et donc, nous ne nous arrêterons pas là. C'est le début de notre histoire commune.
On est toujours à la recherche d'un accord global et Virginie Rufnak, la chef de groupe du Rassemblement au Congrès, est convaincue que cet accord est possible.
Je souhaite que les Calédoniens bénéficient d'un accord parce que c'est notre planche de salut et que nous en avons besoin et qu'en même temps chacun assume ses actes. Puis vous savez, les choses, elles se règlent aussi lors des élections. Hein. Donc à un moment donné, le temps électoral reviendra.
Mais novembre, c'est la saison des congrès indépendantistes. L'UPM et le Palika confirment leur retrait de la gouvernance du FLNKS pour privilégier la démarche UNI, Union Nationale pour l'Indépendance. lors de son 55e congrès, l'Union calédonienne se donne quant à elle un nouveau président, la personne du député Emmanuel Tchibaou, l'UC qui évoque un calendrier de négociations qui doit aboutir à la signature de l'accord de Kanaky au plus tard le 24 septembre 2025. Mais dans le même temps, elle se dit prête, selon son président, à reprendre les discussions avec l'État et avec les partisans de la France pour trouver un accord avant les élections de novembre 2025.
La discussion avec l'État, c'est simple. Hein. C'est qu'on est indépendantiste, la souveraineté, c'est l'État qui détient. Nos compatriotes loyalistes, ils ne sont pas responsables de la colonisation. Nous, on dit qu'ils sont porteurs d'un projet qu'ils maintiennent dans la France. Ça, c'est leur projet. Nous, on veut s'émanciper.
C'est fin novembre, par ailleurs, que Jacques Lallier est condamné à 2 ans d'inéligibilité. Un coup dur pour le président de la province des Îles, qui était jugé en appel pour une affaire de favoritisme. Et il parle d'assassinat politique. Mais en cette fin d'année, on parle surtout économie et aide de l'État. Emmanuel Moulin a été chargé par le Premier ministre de mener les travaux de préfiguration de la délégation interministérielle à la Nouvelle-Calédonie et de suivre les travaux de la mission de reconstruction, avec d'abord une avance remboursable de 28 milliards qui doit être validée dans une DM6 par les élus du Congrès et avec la mise en place d'un prêt d'1 milliard d'euros. Mais certains élus veulent que ces aides soient transformées en subventions. La réaction d'Emmanuel Moulin.
Évidemment, moi, je préférerais aussi, quand je viens voir mon banquier, qu'il me donne de l'argent plutôt qu'il m'en prête. Mais il n'y a pas d'argent magique. Et donc, nous, ce que nous faisons, ce que nous avons préparé, c'est un prêt pour 2025, qui soit un prêt sur une longue période, plus de 20 ans, avec une période de grâce, qui permettra aussi à la Nouvelle-Calédonie de repartir.
Et la politique nationale s'immisce de nouveau dans les projets de la Calédonie, quand le gouvernement Barnier est renversé par une motion de censure. Ce vote intervient alors que des avancées significatives avaient été obtenues dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025. Heureusement, le projet de loi de fin de gestion adopté in extremis avant la censure permet de débloquer 27 milliards CFP pour finir l'année. Et la Calédonie retient son souffle lors de l'examen par le Congrès de la fameuse DM6. Au terme d'un très long débat, souvent houleux, elle est adoptée à l'unanimité, même si Philippe Gomès est monté au créneau pour dénoncer l'attitude de l'État et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Nous acceptons de subir aujourd'hui, dans les conditions posées par l'État, ce qui a été annoncé dans la Convention. À partir de ce moment-là, attendez-vous demain à ce que l'État ne fasse pas preuve de plus de bienveillance qu'il n'en a fait preuve à cette occasion.
Calédonie Ensemble prête un bras de fer avec l'État, un ton et une attitude qui agacent fortement Louis Mapou.
Si vous pensez on peut jouer au loto. Sur cette question, il faut le faire. Nous, pendant nos responsabilités, on en a déjà beaucoup parlé entre nous, ne vous inquiétez pas.
Et c'est dans ce climat tendu et délétère que le 24 décembre, Calédonie Ensemble décide de faire tomber le gouvernement Mapou, une décision que le président du gouvernement qualifie de sale coup politique.
C'est un sale coup politique qui est porté à notre pays, comme si on avait besoin de ça. Chacun appréciera que la décision a été prise la veille de Noël.
Était-ce le bon moment? La Calédonie avait-elle besoin de cela? Ou est-ce finalement une opportunité? La réponse en 2025, une année au cours de laquelle il faudra essayer de réparer les dramatiques dommages de 2024.
La première partie de la grande rétrospective de l'année 2024 avec l'actualité politique en Calédonie présentée par Elisabeth Noir. Ce soir, on reviendra après le journal de 17h45 sur ce qui a marqué en dehors de la politique cette année 2024 en Calédonie, notamment évidemment la crise insurrectionnelle. Ce sera avec Nicolas Legrand à retrouver donc dès la fin du journal de 17h45.